Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. L'art d'être heureux est un petit traité, tour à tour mordant et revigorant, du philosophe allemand du début du XIXe siècle, Arthur Schopenhauer. Morceau choisi. Ce qui se passe dans une conscience étrangère nous est parfaitement indifférent. Et à notre tour, nous y deviendrons indifférents à mesure que nous connaîtrons suffisamment la superficialité et la futilité des pensées, les bornes étroites des notions, la petitesse des sentiments, l'absurdité des opinions et le nombre considérable d'erreurs que l'on rencontre dans la plupart des cervelles. À mesure aussi que nous apprendrons par expérience avec quel mépris l'on parle à l'occasion de chacun de nous, dès qu'on ne nous craint pas, ou quand on croit que nous ne le saurons pas. Mais surtout, quand nous aurons entendu une fois avec quel dédain une demi-douzaine d'imbéciles parlent de l'homme le plus distingué. Nous comprendrons alors qu'attribuer une haute valeur à l'opinion des hommes, c'est leur faire trop d'honneur. C'est notre nature animale qui est à la base de notre être, et par conséquent aussi de notre bonheur. L'essentiel, pour le bien-être, c'est donc la santé, et ensuite les moyens nécessaires à notre entretien, et par conséquent, une existence libre de soucis. Il sera donc très utile pour notre bonheur de connaître à temps ce fait si simple que chacun vit d'abord et effectivement dans sa propre peau et non dans l'opinion des autres. Et qu'alors, naturellement, notre condition réelle et personnelle, telle qu'elle est déterminée par la santé, le tempérament, les facultés intellectuelles, le revenu, la femme, le mari, les enfants, le logement, est 100 fois plus importante pour notre bonheur que ce qu'il plaît aux autres de faire de nous. L'orgueil au meilleur marché, c'est l'orgueil national. Il trahit chez celui qui en est atteint l'absence de qualités individuelles dont il puisse être fier, car sans cela, il n'aurait pas recours à celles qu'il partage avec tant de millions d'individus. Quiconque possède des mérites personnels distingués reconnaîtra au contraire plus clairement les défauts de sa propre nation, puisqu'il l'a toujours présente à la vue. Mais tout piteux imbécile, qui n'a rien au monde dont il puisse s'enorgueillir, se rejette sur cette dernière ressource d'être fier de la nation à laquelle il se trouve appartenir par hasard. C'est là-dessus qu'il se rattrape. Et dans sa gratitude, il est prêt à défendre du poing et du pied tous les défauts et toutes les sottises propres à cette nation. Le manœuvre qui aide à élever un édifice n'en connaît pas le plan d'ensemble ou ne l'a pas toujours sous les yeux. Telle est aussi la position de l'homme pendant qu'il est occupé à dévider un à un les jours et les heures de son existence. Plus cette existence est digne, considérable, significative et individuelle, plus il est nécessaire et bienfaisant pour l'individu de jeter de temps en temps un regard sur le plan réduit de sa vie. Il est vrai que pour cela, il lui faut avoir fait déjà un premier pas dans le « connais-toi toi-même ». Il doit donc savoir ce qu'il veut réellement. Il doit connaître ce qui est essentiel à son bonheur et ce qui ne vient qu'en seconde puis en troisième ligne. Il faut qu'il se rende compte, en gros, de sa vocation, de son rôle et de ses rapports avec le monde. Si tout cela est important et élevé, alors l'aspect du plan réduit de sa vie le fortifiera, le soutiendra. Cet examen l'encouragera au travail et le détournera des sentiers qui pourraient l'égarer. « au lieu de nous occuper sans cesse exclusivement de l'avenir ou de nous livrer, à l'inverse, aux regrets du passé, nous devrions ne jamais oublier que le présent seul est réel, que seul il est certain, et qu'au contraire, l'avenir se présente presque toujours autre que nous le pensions, et que le passé lui aussi a été différent. Ce qui fait que, en somme, avenir et passé ont tous deux bien moins d'importance qu'il ne nous semble. Car le lointain, qui rapetissent les objets pour l'œil, les surgrossit pour la pensée. Le présent seul est vrai et effectif. Il est le temps réellement rempli. Et c'est lui, c'est sur lui que repose exclusivement notre existence. Aussi doit-il toujours mériter à nos yeux un accueil de bienvenue. Nous devrions goûter, avec la pleine conscience de sa valeur, toute heure supportable est libre de contrariétés ou de douleurs actuelles. C'est-à-dire ne pas la troubler par des visages qu'attristent des espérances déçues dans le passé ou des appréhensions pour l'avenir. Quoi de plus insensé que de repousser une bonne heure présente ou de se la gâter méchamment par inquiétude de l'avenir ou par chagrin du passé ? Se suffire à soi-même, être tout en tout pour soi, et pouvoir dire « omnia mea mecum porto ». Voilà certainement pour notre bonheur la condition la plus favorable. Aussi ne saurait-on assez répéter la maxime d'Aristote. Le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Car d'une part, il ne faut compter avec quelque assurance que sur soi-même. D'autre part, les fatigues et les inconvénients, le danger et les peines que la société apporte avec elle sont innombrables et inévitables. Il n'y a pas de voie qui nous éloigne plus du bonheur que la vie en grand, la vie des noces et festins, celle que les Anglais appellent le « high life ». Car en cherchant à transformer notre misérable existence en une succession de joies, de plaisirs et de jouissances, l'on ne peut manquer de trouver le désabusement. Sans compter les mensonges réciproques que l'on se débite dans ce monde-là et qui en sont l'accompagnement obligé. En présence d'un événement malheureux, déjà accompli, auquel par conséquent on ne peut rien changer, il ne faut pas s'abandonner même à la pensée qu'il pourrait en être autrement. Et encore moins réfléchir à ce qui aurait pu le détourner. Car c'est là ce qui porte la gradation de la douleur jusqu'au point où elle devient insupportable. Faisons plutôt comme le roi David, qui assiégeait sans relâche Jéhovah de ses prières et de ses supplications pendant la maladie de son fils, et qui, dès que celui-ci fut mort, fit une pirouette en claquant des doigts et n'y pensa plus du tout. Celui qui n'est pas assez léger d'esprit pour se conduire de même doit se réfugier sur le terrain du fatalisme et se pénétrer de cette haute vérité que tout ce qui arrive, arrive négligemment, donc inévitablement. À la vue de biens que nous ne possédons pas, nous nous disons très volontiers « Ah, si cela m'appartenait !» Et c'est cette pensée qui nous rend la privation sensible. Au lieu de cela, nous devrions souvent nous demander « Comment serait-ce si cela ne m'appartenait pas ?» J'entends par là que nous devrions parfois nous efforcer de nous représenter les biens que nous possédons comme ils nous apparaîtraient après les avoir perdus. Et je parle ici des biens de toute espèce. Richesse, santé, amis, maîtresse, amant, épouse, époux, enfant, cheval et chien. Car ce n'est le plus souvent que la perte des choses qui nous en enseigne la valeur. Borner ses désirs, réfréner ses convoitises, maîtriser sa colère, se rappelant sans cesse que chaque individu ne peut jamais atteindre qu'une partie infiniment petite de ce qui est désirable, et qu'en revanche, des mots sans nombre doivent frapper chacun. En un mot, s'abstenir et se soutenir. Voilà la règle sans l'observation de laquelle ni richesse ni pouvoir ne pourront nous empêcher de sentir notre misérable condition. La vie est dans le mouvement, a dit Aristote avec raison. De même que notre vie physique consiste uniquement dans et par un mouvement incessant, de même notre vie intérieure, intellectuelle, demande une occupation constante, une occupation avec n'importe quoi, par l'action ou par la pensée. C'est ce que prouve déjà cette manie des gens désœuvrés et qui ne pensent à rien de se mettre immédiatement à tambouriner avec leurs doigts ou avec le premier objet venu. C'est que l'agitation est l'essence de notre existence. Une inaction complète devient bien vite insupportable, car elle engendre le plus horrible ennui. C'est en réglant cet instinct qu'on peut le satisfaire méthodiquement et avec le plus de fruits. L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose, si cela lui est possible, ou apprenne au moins quelque chose. Ses forces demandent leur emploi, et lui-même ne demande qu'à leur voir produire un résultat quelconque. Sous ce rapport, sa plus grande satisfaction consiste à faire, à confectionner quelque chose, panier ou livre. Mais ce qui donne du bonheur immédiat, c'est de voir jour par jour croître son œuvre sous ses mains, et de la voir arriver à sa perfection. Pénétrons-nous bien de ce fait que notre pensée n'est autre chose que la fonction organique du cerveau, et partant se comporte, pour ce qui regarde la fatigue et le repos, d'une manière analogue à celle de toute autre activité organique. Un effort excessif fatigue le cerveau comme il fatigue les yeux. On a dit avec raison, le cerveau pense comme l'estomac digère. L'idée d'une âme immatérielle, simple, essentiellement et constamment pensante, partant infatigable, qui ne serait là que comme logée en quartier dans le cerveau et n'aurait besoin de rien au monde, a certainement poussé plus d'un homme à une conduite insensée qui a émoussé ses forces intellectuelles. Frédéric le Grand, par exemple, n'a-t-il pas essayé une fois de se déshabituer totalement du sommeil ? Les professeurs de philosophie devraient bien ne pas encourager une pareille illusion, nuisible même en pratique, par leur philosophie orthodoxe de vieille femme. Il faut apprendre à considérer les forces intellectuelles comme étant absolument des fonctions physiologiques, afin de savoir les manier, les ménager, ou les fatiguer en conséquence. On doit se rappeler que toute souffrance, toute incommodité, tout désordre dans une partie quelconque du corps affecte l'esprit. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Je vous renvoie au podcast d'octobre dernier consacré au portrait d'Arthur Schopenhauer, un philosophe absolument pas poussiéreux, un philosophe à la férocité dévastatrice et salutaire, indéniable précurseur du mouvement punk. Nous écoutons donc Sleeper Mods, Obesity. À très bientôt sur Radio B. Little myths that like to chime for 'em.
Sesame Street, Big Bird. You can't be splashing, you got no fins. You're getting so air, you ain't a fish. You know now I just fantasize. That it don't matter. Past Oliver Bonus and the Chelsea Tractor. You can't be splashing, you got no fins. You're getting so air, you ain't a fish. You're getting shirt air, your cheeky coffee getting dragged round by your sleeves. You can't be splashing, you got no fins. So hey, you ain't a fish. You're getting shirt, hey, your cheeky coffee getting dragged round by your sleeves. Dragged round by your slaves.